Bienvenue pour ces podcasts conflits. Ravi de vous retrouver cette semaine. C'est la dernière émission de cette année 2021. Une année 2021 qui a été extrêmement riche. Près de 110 émissions ont été réalisées au cours de l'année. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Nous avons dépassé les 1,5 million d'écoutes au cours de cette année 2021. C'est en très nette croissance et progression par rapport à 2020. Je voulais vous en remercier. Remercier aussi les personnes qui viennent chaque semaine au micro de conflits avec qui nous pouvons échanger et converser sur des sujets qui sont souvent variés. Évidemment, la géopolitique est toujours le thème central, mais nous essayons aussi parfois d'aller par des chemins un peu détournés. Je mentionne également pour ceux qui nous écoutent, et je sais que vous êtes nombreux à être professeurs, notamment au lycée, ou alors d'être étudiant au lycée, nous avons deux séries entièrement consacrées au programme de première et de terminale. Nous avons réalisé des émissions spéciales consacrées uniquement au programme scolaire. Il y a une trentaine d'émissions pour la première et 40 émissions environ pour la terminale. Alors ces sujets intéressent tout le monde, évidemment, même si vous avez déjà passé le bac, mais pour les professeurs ou pour les lycéens, c'est l'occasion d'avoir ainsi des émissions complètement adaptées au programme scolaire, ce qui peut être utile pour préparer des cours ou bien pour préparer les examens qui sont à venir. Alors pour cette dernière émission de l'année, nous allons partir en Russie pour évoquer un sujet intéressant, un sujet de philosophie politique, à savoir la question des Russes blancs, de leur rapport au tsarisme, de leur opposition également aux bolcheviques. Et comme on va le voir, ces Russes blancs, pour une partie, ont eu des liens ensuite ou des acquaintances avec l'Italie, avec l'Allemagne, ce qui permet ainsi de comprendre les éléments de cette histoire du XXe siècle. Pour évoquer ce sujet des Russes blancs, je reçois cette semaine Sylvain Roussillon. Alors on connaît beaucoup les bolcheviques, on connaît moins les opposants aux bolcheviques. Qui sont exactement ces fascistes russes? Est-ce que ce sont des Russes blancs? Est-ce que ce sont des aristocrates? Est-ce que ce sont d'autres populations de la Russie?
Alors, ce sont évidemment les Russes blancs, puisque c'est un mouvement qui naît dans l'exil, après la défaite des Blancs lors de la guerre civile. Mais la population blanche, la population qui s'exile après la guerre civile, est une population très hétérogène en réalité. On a souvent une vision des Russes blancs qui correspond peu ou prou à ce que vous évoquiez, c'est-à-dire des officiers, des grandes duchesses et des princes désargentés qui se reconvertissent en chauffeurs de taxi. La réalité est bien différente. La défaite des armées blanches jette sur les chemins de l'exil à peu près 2 à 3 millions d'individus qui représentent en fait l'ensemble des couches sociales et des classes sociales de l'ancienne Russie, avec, c'est vrai, une prédominance des milieux militaires et des milieux de la noblesse, mais aussi beaucoup de bourgeois, de marchands, des ouvriers, des paysans, des cosaques. Et on a donc affaire en réalité à une population qui est extrêmement hétérogène sur tous les plans, et y compris sur le plan politique d'ailleurs.
Quels sont leurs objectifs politiques? Est-ce que c'est de restaurer l'Empire? Est-ce que c'est de mettre un terme au bolchevisme? Probablement d'ailleurs ont-ils des objectifs assez différents.
Alors, le mouvement blanc est très hétérogène sur le plan social, il l'est aussi sur le plan politique. En fait, ce qui soude les uns et les autres, c'est la volonté de reconquérir le pouvoir et de chasser les bolcheviques. Au-delà de cet objectif immédiat, les Russes blancs en exil sont très divisés sur le plan politique. On trouve des monarchistes en assez grand nombre, mais aussi des républicains. On trouve même une gauche russe blanc en exil qui est incarnée par un certain nombre d'anciens partis de la gauche qui existaient dans l'ancienne Russie, des socialistes révolutionnaires, des mencheviks, des constitutionnels démocrates qui n'aspirent pas précisément, voire pas du tout, à une restauration de l'Empire, mais plutôt à la constitution d'une république sociale ou d'une république libérale. Mais au fil des années, bien évidemment, c'est l'élément monarchiste qui va prendre le dessus, parce que le massacre de la famille impériale, lorsqu'on en connaîtra de plus en plus au fil du temps l'ensemble des détails, va ériger cette famille, va lui donner l'auréole du martyr, et de nombreux Russes blancs en exil vont finalement rester fidèles à ce symbole de l'ancienne Russie.
Vous employez pour les désigner le terme de fascisme russe. Pourquoi cette référence au fascisme ? Est-ce qu'il se rattache à Mussolini ? Est-ce que c'est pour lui un modèle ?
Alors, la première mention chez les Russes blancs en exil d'un courant fasciste intervient très tôt. Mussolini prend le pouvoir en Italie à la fin du mois d'octobre 1922. C'est la marche sur Rome. Et la première fois qu'on voit une mention d'un groupe fasciste russe, c'est en décembre 1922, donc vous voyez, c'est très très proche dans le temps, avec un manifeste qui est signé par un ordre des officiers russes fascistes, qui est un manifeste édité dans les camps de réfugiés de la péninsule de Gallipoli. Donc on voit, ce mouvement intervient très tôt. Au départ, ça n'est pas un mouvement tellement idéologique, et on peut considérer que les signataires de ce premier manifeste voient surtout dans le fascisme un anticommunisme qui aurait réussi à barrer la route au communisme. Il faut se souvenir que le début des années 20 en Italie est marqué par de nombreuses échauffourées avec la gauche italienne, par des grèves généralisées, et que plane à l'époque sur le royaume d'Italie le risque, en tout cas c'est comme ça que l'interprète un bon nombre de personnes au sein de la péninsule italienne, le risque d'un bouleversement politique et social majeur inspiré de ce qui s'est passé en Russie. Et donc pour ces premiers fascistes russes, le fascisme c'est surtout un anticommunisme qui fonctionne. Par la suite, certains habilleront ce fascisme russe d'une idéologie, mais ça viendra plutôt dans le au début des années 30. Tout au long des années 20, on a vraiment affaire à des gens qui se réclament de l'idéologie fasciste, mais sans reconnaître véritablement le fondement. Ce qui guide leur action, leur pensée, c'est davantage, comment dire, c'est davantage l'idée que le fascisme a triomphé grâce à ses méthodes et moins grâce à son idéologie. Et c'est sur ces méthodes que les premiers fascistes russes veulent absolument se calquer.
Alors il y a parmi eux des groupes politiques différents, avec des idées politiques différentes, mais comment pensent-ils l'après-bolchevique, si jamais ils arrivent à les chasser du pouvoir ? Quelles sont leurs volontés politiques pour la Russie ? Est-ce qu'ils veulent revenir à l'Empire tel qu'il était sous Nicolas II, avoir un autre type de monarchie, voire même une république ?
Alors, dans un premier temps, l'exil politique des Russes blancs est un exil assez figé sur les anciennes positions politiques qui existaient dans l'Empire des Tsars. Et puis c'est vrai que dans le courant des années 20, on voit apparaître un certain nombre de pensées hétérodoxes qui vont tendre à moderniser le discours classique des Russes blancs. Donc il y a différentes écoles qui se constituent, qui sont toutes intéressantes d'un point de vue intellectuel. La première de ces écoles s'appelle, enfin est connue dans l'histoire sous le nom de changement de jalon. Les intellectuels russes blancs qui constituent cette école de pensée considèrent que les bolcheviks ont gagné et ont gagné durablement. et qu'il convient donc de construire un projet politique avec cette idée-là en tête. Et ce changement de jalon vise à rapprocher une partie de l'exil blanc de l'Union soviétique en développant une pensée qui va s'appeler le bolchevisme national. Vous avez une autre école de pensée qui ne date pas de l'époque, mais qui reprend du poil de la bête à cette époque, qui est l'eurasisme. L'eurasisme, c'est une pensée politique qui est née en Russie dans la première moitié du XIXe siècle, et qui là retrouve donc, je le dis, des couleurs dans les années 20. Et grosso modo, cette école de pensée considère que ce qui perd la Russie, c'est, ou ce qui a perdu la Russie, ça a été de trop se tourner vers l'Occident. Que le destin de la Russie, il est davantage tourné vers l'Orient. D'où ce nom d'eurasiste. Et à ce titre-là, il considère que l'expérience bolchevique est intéressante parce que elle entre en conflit direct, frontal, avec les valeurs de l'Occident. Et donc ces eurasistes, qui, je le rappelle, sont des Russes blancs, voient finalement d'un bon œil l'évolution anti-occidentale de la Russie bolchevique et considèrent qu'il y aurait des passerelles intellectuelles à mettre en place avec les bolcheviques. Autre courant hétérodoxe qui voit le jour à l'époque, les Mladorossi, ce qui veut dire les jeunes Russes, qui considèrent eux aussi que la révolution n'a pas éclaté pour rien, qu'elle trouve ses racines dans une réalité sociale et sociétale russe, mais que cette révolution est allée finalement trop loin. Et pour eux, il est hors de question, par exemple, de revenir sur la structuration de la société russe autour des soviets, mais il convient de recouronner cette société russe en remettant en place un tsar, d'où leur slogan « Les soviets et le tsar ». Eux-mêmes s'intitulent d'ailleurs, de manière un peu ironique, comme le second parti soviétique, de par leur attachement aux soviets. Et tout ça apporte, et puis vous avez aussi les solidaristes russes, qui considèrent que les débats monarchie-république sont des débats dépassés, en tout cas des débats qui n'ont pas lieu d'être dans l'immigration, qu'il convient déjà de reprendre le pouvoir et de soumettre le choix du régime à la population russe après l'élection d'une assemblée constituante. Et donc l'ensemble de ces mouvements, qui ne seront jamais majoritaires dans l'immigration russe, mais en tout cas qui vont apporter un souffle d'air frais dans la pensée russe, vont accompagner la naissance intellectuelle du fascisme russe. Cette naissance intellectuelle du fascisme russe, elle est au départ essentiellement le fait d'un seul homme qui s'appelle Vassili Choulguine. Alors Vassili Choulguine, c'est un personnage intéressant, un personnage de roman. C'est quelqu'un qui a siégé dans les trois dernières Douma impériales, c'est-à-dire les trois derniers parlements réunis à l'époque du tsar. Il a siégé sur différents bancs, à l'extrême droite, à droite, au centre. C'est un poète reconnu à l'époque, hein, c'est pas un poète de pacotille, il a gagné des prix. C'est un orateur qui est très craint d'ailleurs dans le milieu parlementaire parce qu'il a la réplique facile et la dent acérée. Il est aussi journaliste, il dirige un journal à Kiev dont il est l'élu, donc à Kiev actuellement en Ukraine. Et c'est quelqu'un qui a suivi de très près, puisqu'il était à Petrograd au moment des événements révolutionnaires, qu'il a été arrêté, donc il a suivi très près le déroulement de la révolution. Il a même été brièvement prisonné, puis remis en liberté, et là, il est parti, il est retourné en Ukraine, où les choses étaient moins tendues. Sur place, il se fait élire à la Rada, qui est l'assemblée révolutionnaire ukrainienne. Il est d'ailleurs le seul député de droite à être élu à la Rada. Il ne siégera jamais, puisque celle-ci ne se réunira jamais. Et lorsque la tension révolutionnaire va gagner et embraser l'Ukraine, Chouguine va rejoindre les armées blanches qui se sont rassemblées, constituées sur le Don. Il va dans un premier mi-temps être une espèce de conseiller politique des armées blanches, avant de prendre un petit peu du retrait par rapport aux militaires, même s'il sera toute sa vie très proche, il sera pendant une partie de sa vie très proche, il restera très proche du général Wrangel jusqu'à la mort de celui-ci. Et Vassili Chouguine, ensuite, fait comme la plupart des Russes blancs au moment de la défaite, il part en exil. Vassili Chouguine était très proche, avant la guerre, des milieux futuristes, notamment des milieux futuristes russes. Et c'est vraisemblablement grâce à ses amitiés avec les milieux futuristes russes, qui eux-mêmes étaient en contact avec Marinetti, les futuristes italiens, Marinetti étant lui-même un proche de Mussolini, c'est vraisemblablement par ce cheminement, par ce biais, que Chouguine entend parler du fascisme en Italie. Et Chouguine est un des premiers intellectuels russes à se proclamer ouvertement fasciste, aux grandes dames d'une partie de l'immigration qui est assez conservatrice et qui voit d'un assez mauvais œil l'un des siens afficher des idées aussi radicales. Et Chouguine va rester sur ses positions et va essayer d'apporter, de nourrir ce courant fasciste russe naissant en traduisant des textes, en écrivant lui-même. On peut considérer que c'est le premier théoricien du fascisme russe, à l'époque très influencé et même uniquement influencé par le modèle italien. Alors, quelques mots sur Chouguine, puisque je disais que sa vie était un roman. Chouguine s'installera en Yougoslavie, après maintes péripéties. En 1947, il sera livré par les autorités yougoslaves à l'armée rouge de Staline. Là, il écopera d'une peine de 20 ans de travaux forcés. Chouguine est né en 1878, c'est donc déjà un vieillard qui est envoyé aux travaux forcés. Il est libéré à l'époque de la déstalinisation. Et à ce moment-là, dans les années 60, il obtient de s'installer dans un petit appartement d'une pièce avec sa femme. Et le KGB a le projet de l'utiliser dans un film historique qui retracerait la révolution, l'histoire de l'exil, et qui montrerait comment un des principaux leaders blancs, finalement, se soumet très volontiers au nouveau pouvoir en Russie. Et ce film, qui est complètement souhaité par le KGB, encadré par le KGB, en fait, ne sera diffusé que quelques jours dans quelques salles de cinéma à Leningrad et à Moscou, parce que, de l'aveu même du KGB, Chouguine est excellent, il n'abdique jamais ses idées, et à de nombreuses reprises, l'ancien triban à la dent acérée et aux répliques assez vives met en difficulté ces jeunes contradicteurs agents du KGB qui ont beaucoup de mal à tenir la dragée haute. Et Chouguine mourra très âgé, à 98 ans, 1976, avec une petite notoriété retrouvée dans la Russie communiste, où de nombreux intellectuels, dissidents ou pas, chercheront à le rencontrer, seront reçus par lui, auront des échanges avec lui. J'en termine avec ce personnage qu'on peut considérer comme étant le père intellectuel du fascisme russe.
Si on avance un petit peu dans le temps et qu'on étudie l'évolution politique de ces groupes dans les années 1930, comment se positionne-t-il par rapport à la montée des régimes totalitaires, notamment de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste? On suppose notamment que le fait que l'Allemagne nazie se soit alliée avec la Russie soviétique, notamment avec le pacte germano-soviétique de 1939, a dû quelque peu changer leur plan, puisqu'ils ne pouvaient plus s'appuyer sur des régimes qui, pour certains, leur apparaissaient comme des alliés potentiels dans la lutte contre les bolcheviks.
Alors voilà, alors, dans les années 30, les trois territoires phares du fascisme russe, là où il y a vraiment des organisations très vivantes qui sont implantées, sont, avec trois mouvements différents, sont les États-Unis, avec un certain Vondriatsky qui a créé un parti fasciste russe, sont l'Allemagne qui a vu apparaître dès 1933 un mouvement national de libération russe qui est dirigé un temps par le général Pavel Bertont-Avalov, et puis en Chine, en Mandchourie plus précisément, dans la ville d'Harbin, un mouvement qui sera le mouvement fasciste le plus important de toute l'histoire fasciste russe, qui est le parti fasciste russe créé par un jeune homme, Konstantin Rodzovsky. Alors pourquoi la Chine ? J'ouvre une petite parenthèse, tout simplement parce que à la défaite des armées blanches sur les fronts sibériens et extrême-orientaux, beaucoup de soldats, de civils, etc., ont passé la frontière, se sont réfugiés en Mandchourie, dans la ville d'Harbin, qui était une ville importante sur le tracé du transmandchourien et du transsibérien. Et on a, dans cette ville de 450 000 habitants à peu près, on compte à peu près 130 000 réfugiés russes. C'est-à-dire que là, il y a véritablement une communauté russe qui existe, qui se suffit à elle-même, qui dispose de ses universités, de ses grandes écoles, de ses lycées, de ses paroisses, de ses propres journaux. Il n'y a pas moins de 4 quotidiens russes qui sont lus à Harbin, dont un quotidien fasciste. Voilà, donc là, on a affaire à un cas un peu particulier. Harbin est la plus grande ville russe en dehors de la Russie. Pour revenir à votre question, dans un premier temps, la victoire des nazis en Allemagne est interprétée de la même manière que l'a été celle de Mussolini en Italie, par les mouvements fascistes russes. C'est-à-dire que pour eux, ça confirme ce qu'ils avaient déjà eu le sentiment de pressentir avec Mussolini, c'est que le fascisme et le national-socialisme sont des anticommunismes qui fonctionnent, qui réussissent. Lorsque la question du pacte germano-soviétique sera rendue publique, ça va produire sur les fascistes russes le même effet que ça produira sur un certain nombre de partis communistes dans le monde, d'ailleurs, paradoxalement, c'est-à-dire une énorme désillusion. Voilà que cette Allemagne qui était un peu montrée comme un exemple de lutte anticommuniste, pactise avec les communistes russes, pactise avec l'Union soviétique. Pour beaucoup de ces fascistes russes, c'est une désillusion immense. Ils ne comprennent pas cette alliance contre nature, et je le répète, de la même manière que dans énormément de partis communistes occidentaux, beaucoup de militants et de cadres communistes ne comprendront pas non plus, dans l'autre sens, que l'Union soviétique ait signé un pacte avec l'Allemagne nazie. Donc voilà un petit peu l'état des lieux à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
Et ensuite, lorsqu'il y a la rupture du pacte germano-soviétique avec l'opération Barbarossa, est-ce que certains ont vu ça comme une opportunité de s'attaquer au régime bolchevique et donc de faire une alliance avec l'Allemagne nazie à cette fin ?
Certains, mais pas tous. Alors, je parlais de trois mouvements. Le mouvement d'Anastasie Vondriatsky, l'organisation fasciste pan-russe aux États-Unis, est très rapidement décapité par les autorités fédérales américaines qui y voient un danger potentiel pour la sécurité de l'État. C'est une erreur politique puisque Wonsiatski, lui, condamne le pacte germano-soviétique et est un des premiers de l'ensemble des fascistes, c'est le moins idéologue de tous. Pour lui, il en est resté réellement au stade où le fascisme est un anticommunisme qui marche. Un certain nombre de proches de Wonsiatski, ceux qui ne seront pas inquiétés par par les autorités fédérales américaines, s'engageront dans l'armée américaine ou pour certains dans l'armée britannique et lutteront sans état d'âme aux côtés des alliés. Dans le cas du mouvement national de libération russe qui est installé à Berlin, évidemment, la situation est un peu plus difficile. La situation d'émancipation est un peu plus compliquée à mettre en place. Et eux, pour la plupart, se rallieront aux Allemands et tenteront d'intégrer des unités militaires russes mises en place par les Allemands. Et puis il y a le cas vraiment intéressant du parti fasciste russe installé à Harbin en Mandchourie, puisque eux ils sont sous influence directe du Japon. Donc dans un premier temps, ce qui se passe au niveau de l'Allemagne leur semble extrêmement éloigné. Et eux poussent réellement à ce que le Japon entre en guerre contre les Soviétiques. Il faut savoir que pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale, il n'y aura pas d'état de guerre entre les Soviétiques et les Japonais. Ce n'est qu'en 1945 que l'Union soviétique déclara la guerre au Japon. Pendant toute la guerre, il va y avoir un véritable calme à la frontière entre la Mandchourie occupée par les Japonais et l'Union soviétique. Et ces jeunes fascistes russes d'Harbin, qui ont eu l'autorisation par les autorités japonaises de constituer une organisation paramilitaire qui s'appelle la Brigade Asano, qui est encadrée et armée par les Japonais, poussent à la roue pour que les choses dérapent le long de la frontière russo-mandchou, soviético-mandchou, et pour qu'il y ait un état de guerre qui se mette en place. Puisque l'idée pour eux, c'est de profiter d'un état de guerre pour aider le Japon à vaincre les Soviétiques et reprendre pied dans leur pays. Ce qui n'arrange pas du tout les affaires des Japonais, qui sont déjà engagés sur dans la guerre du Pacifique, et qui finissent par interdire le parti fasciste russe à Harbin. Le parti fasciste russe qui, du coup, va tenter de se tourner vers les autorités consulaires allemandes, hein, puisque l'Allemagne entretient une ambassade à Harbin, et les Allemands opposeront une fin de non-recevoir à ces fascistes russes implantés en Chine, parce que c'est un autre secteur, un autre front, tout ça leur semble trop lointain pour présenter un quelconque intérêt. Par contre, ce qui, pour aller plus en avant dans votre question, la Seconde Guerre mondiale va voir apparaître un mouvement extrêmement isolé, mais extrêmement intéressant, dont aujourd'hui on a oublié jusqu'à l'existence, qui va être le seul mouvement national-socialiste russe. En tout cas, qui se présentera et s'intitulera comme tel. Ce mouvement voit le jour dans des conditions extrêmement particulières. En octobre 1941, donc à l'époque, l'armée allemande a lancé son offensive sur l'Union soviétique et occupe de larges pans de la partie occidentale de l'Union soviétique. Et l'armée allemande est déjà en butte aux attaques et à la menace des partisans qui se développent sur l'arrière de la ligne de front. Et les autorités allemandes encouragent la création à Locotte, qui est une ville de province qui est située aujourd'hui à la limite de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie. Ils encouragent la création d'une espèce de gouvernement autonome qui voit le jour sous l'impulsion de deux principaux instigateurs qui sont Stepan Moïsin et Bronislav Kaminski, qui crée une espèce de mini-État qui aura la taille à peu près de l'actuelle Belgique, hein, pour vous donner un ordre de grandeur, qui sera connu sous le nom de République de Lokot, qui se dote de son drapeau, d'un certain nombre d'institutions, le tout encouragé par les Allemands, parce qu'il se dote aussi de sa propre troupe armée, qui s'emploie à lutter contre les partisans communistes. Et c'est autant de travail en moins pour l'armée allemande qui encourage donc cette initiative et qui la regarde avec intérêt en se disant que si cette initiative réussit, eh bien c'est une initiative qui pourrait s'étendre dans d'autres secteurs situés à l'arrière de la ligne de front et infestés de partisans soviétiques. Et pour structurer leur action au sein de ces territoires de Lokot, les initiateurs de ce territoire autonome vont créer un parti politique qui va s'intituler le Parti national-socialiste russe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que autant dans le cas des organisations qu'on a citées précédemment, il s'agit réellement d'organisations qui sont nées dans l'exil russe avec des personnalités de l'exil, donc des Russes blancs. Là, on a affaire à une initiative qui est menée à l'intérieur du territoire russe, certes occupé par les Allemands, mais quand même à l'intérieur du territoire russe, et qui s'appuie, y compris au niveau de ses fondateurs, sur des gens qui, dont une bonne partie, ont été proches, voire ont été membres, du Parti communiste. Quelqu'un comme Bronislav Kaminski, par exemple, a non seulement été membre du Parti communiste, mais il a été même membre du NKVD, c'est-à-dire de la police, de la police politique du régime. Et la plupart des cadres, voire des militants de ce Parti national-socialiste russe, sont en fait des transfuges du Parti communiste russe. Cette initiative qui intéresse les Allemands n'ira pas au-delà de cet exemple unique parce que rapidement le front russe va commencer à s'effriter et ces collaborateurs russes de l'armée allemande vont accompagner l'armée allemande dans sa retraite et vont petit à petit se mêler au flot des réfugiés. L'armée populaire de libération russe, qui est le groupe militaire qui avait été constitué sur place, la République de Lokot, va participer au combat de l'armée allemande. Voire dépasser l'armée allemande et dépasser certaines unités de l'armée allemande en cruauté à l'égard des populations civiles, notamment en participant au sac de la ville de Varsovie, ce qui voudra à Bronislav Kaminski d'être condamné à mort par un tribunal SS et exécuté sur le bord d'une route pour cruauté, ce qui constitue, je pense, un des rares exemples de cette nature venant de la part d'un tribunal SS. Et les débris de son armée seront versés dans l'armée du général Vlassov, donc qui est une armée constituée sur la base de prisonniers recrutés dans les camps de prisonniers, prisonniers soviétiques recrutés dans les camps de prisonniers allemands, pour lutter contre les communistes. Voilà, et ce sera la fin de ce mouvement national-socialiste russe.
Si on fait le bilan de ces mouvements, quel était leur rôle ou leur influence réelle? Est-ce que c'est un mouvement important ou est-ce qu'il demeure anecdotique, en constatant d'ailleurs qu'ils ne sont pas parvenus à leur fin, que le régime bolchevique s'est maintenu, et donc ils n'ont pas réussi à le renverser et inverser ainsi le cours de l'histoire?
Alors, on est dans l'anecdotique au regard de l'histoire générale, très, très clairement. Par contre, si on s'attache à l'histoire de l'immigration russe, à l'histoire même de la pensée russe, on est loin d'être dans l'anecdotique. Parce que l'ensemble de ces mouvements hétérogènes, hétéroclites, qui sont nés dans l'immigration russe, et un certain nombre de ces intellectuels qui ont choisi le camp du fascisme russe à l'époque, on parlait de Vassili Choulguine, mais on peut aussi parler d'Ivan Illin, ou de Nikolaï Oustrianov, aujourd'hui, sont des gens qui... la pensée de ces intellectuels, aujourd'hui, structure une partie de la pensée de la Russie de Vladimir Poutine. Il faut savoir que, par exemple, les cendres d'Ivan Illin ont été rapatriées en Russie, par le gouvernement de Vladimir Poutine, avec tous les honneurs militaires, enterré dans un cimetière de Moscou, la pensée d'Oustrianov a été remise au goût du jour, les livres de Vassili Choulguine sont publiés dans la Russie de Vladimir Poutine aujourd'hui, des écoles de pensée comme les eurasistes par exemple, qui ont toujours été très proches des fascistes russes, ont retrouvé aujourd'hui droit de cité et même au-delà dans la Russie de Vladimir Poutine. Donc, on peut considérer que, historiquement parlant, sur les années 20 et 30, les fascistes russes sont anecdotiques, encore que dans l'immigration russe blanche, ils comptent, ils sont importants. Donc, pour ceux qui s'intéressent précisément à l'histoire des Russes blancs, c'est un sujet à côté duquel on ne peut pas passer. Et puis, si on veut comprendre finalement la structuration de la pensée russe contemporaine, là, maintenant, en 2021, en 2022, et les intellectuels qui influencent la Russie d'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse sur Choulguine, sur Ivan Illin, sur Oustrianov, qui tous, d'une manière ou d'une autre, ont été proches ou acteurs du fascisme russe des années 20 et 30.
Merci beaucoup, Sylvain Roussillon, d'avoir évoqué pour Conflit ces fascistes russes, ces Russes blancs et cette lutte contre les bolcheviks. C'est effectivement important de revoir ces noms, de revoir ces personnes et de comprendre ainsi comment s'est faite une partie de l'histoire du XXe siècle, parce que l'histoire est toujours imbriquée et toujours complexe et qu'il est important de voir les choses sur les différents angles pour mieux les comprendre. Merci pour votre fidélité à nos émissions. C'était donc la dernière émission de cette année 2021. Vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions sur le site internet de Conflit. Celles-ci sont d'ailleurs classées par thème, par playlist. Donc vous pouvez retrouver par région, la région Russie, la région Europe, la région Afrique, Asie, etc. Et je vous retrouve donc l'année prochaine pour une nouvelle saison. C'est notre 6e saison de podcast qui, j'espère, sera riche avec des auteurs variés et qui vous permettront ainsi de découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux sujets et de nouveaux livres. D'ici là, très bonne année 2022 et à très bientôt.